Bienvenue dans Raconte-moi Al-Qasas, une nouvelle série du podcast Coran de ton cœur qui t'accompagnera, j'espère, pendant les jours bénis de Ramadan. Moi, c'est Zainab, enseignante et éternelle étudiante du Coran, comme j'aime le dire. Prépare-toi à entrer en profonde conversation avec Sourat Al-Qasas et accueillir, jour après jour, les sagesses qu'elle t'offre. Raconte-moi Al-Qasas, un grand récit parmi les récits de ton Coran et peut-être même un récit dans l'histoire de ta vie.
Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Il connaît mieux cependant les bien guidés. Et ils dirent, si nous suivons avec toi la bonne voie, on nous arrachera de notre terre. Ne les avons-nous pas établis dans une enceinte sacrée, sûre, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme attribution de notre part ? Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Et combien avons-nous fait périr de cités qui étaient ingrates, alors que leurs habitants vivaient dans l'abondance ? Et voilà qu'après eux, leurs demeures ne sont que très peu habitées. Et c'est nous qu'ils en fûmes l'héritier. Ton Rabb ne fait pas périr les cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole un messager pour leur réciter nos ayat. Et nous ne faisons périr les cités que lorsque leurs habitants sont injustes. Sourate Al-Qasas, ayat 56 à 59. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu te portes bien ainsi que tout le monde chez toi et que tu te maintiens en haleine là dans la série, hein. Machallah, on a bien avancé, on a dépassé la moitié. Il y a la fin qui commence à se dessiner un petit peu, là on va bientôt être nostalgique, mais alhamdulillah, on a encore de la route. Alors on continue cette conversation qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là on arrive à une ayah qui est très émouvante, je trouve. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. La ayah 56, où Allah dit « tu » en parlant au prophète Sassem, donc tu, Mohammed, tu ne guides pas celui que tu aimes, ceux que tu aimes ou celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Alors, là, en fait, il est en train de dire à son prophète, à son messager, tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. En gros, tu ne peux pas créer la foi chez ceux que tu aimes. Il n'y a qu'Allah qui peut faire ça. Et pourquoi il n'y a qu'Allah qui peut faire ça? Parce que c'est lui qui sait qui est à même d'accepter la guidée al-Huda ou pas. Cette ayah, elle a été révélée au sujet d'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de tous, c'est peut-être celui dont il voulait le plus la conversion à l'islam. Pas seulement parce que c'était son oncle, parce que Rasulullah et Abu Talib donc, avaient des liens de parenté, d'accord, c'était vraiment son oncle paternel, mais c'est quelqu'un dont il était très, très proche. Il l'a recueilli très jeune, après il l'a élevé, d'accord ? Donc il était d'abord élevé par sa mère, son grand-père, donc Abdul Muttalib, et ensuite, quand eux tous n'étaient plus de ce monde, eh bien c'est Abu Talib qui a assuré l'éducation de Rasulullah. Ils étaient très proches. C'est une proximité qui a continué même après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit devenu prophète, donc à 40 ans, après qu'il ait reçu la révélation. Et ce qui a empêché les Quraysh, donc les mécréants de Quraysh, de porter atteinte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit physiquement ou autrement, bah c'était la présence de son oncle, Abu Talib, qui était chef de son clan, respecté parmi les siens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait énormément son bien. Et vouloir son bien, ça veut dire vouloir sa conversion à l'islam. Abu Talib protégeait tellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il était arrivé à un point où les Quraysh, donc les mécréants de Quraysh, lui ont posé un ultimatum. En gros, tu nous livres ton neveu ou on te mène la vie dure, on te coupe les vivres et on te coupe les canaux, quoi. Et bien sûr, il a refusé. Il a refusé. Il leur a dit, mais jamais je vous livrerai mon neveu, en fait. Et le boycott contre les musulmans a démarré après ça. Sur son lit de mort, à Abu Talib, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naturellement, est venu à son chevet. Et il a trouvé également à son chevet deux personnes, donc Abu Jahl et Abdullah ibn Umayya. Il a dit à son oncle Abu Talib, dis la ilaha illallah, juste une phrase, avec laquelle finalement je vais pouvoir prendre ta défense devant Allah. Il fallait qu'il prononce au moins ça. Et Abu Jahl, bah voilà le père de l'ignorance, hein, du Jahl, eh bien lui, il répétait sans cesse, donc dès que Rasulullah disait « dis la ilaha illallah », lui, il rajoutait toujours ça en disant « est-ce que tu vas tourner le dos à la religion de ton père, à Abdul Muttalib, de tes ancêtres ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait de lui dire « dis la ilaha illallah ». Et pareil, Abu Jahl qui surenchérissait à chaque fois. Et Abu Talib avait fini par dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui expliquait que si ce n'était pas en fait à cause de sa réputation qui risquait d'être entachée ou à cause de sa crainte en fait de ce que les gens diraient à cause de sa position, eh bien il serait entré en islam. Donc il a donc refusé de se convertir à l'islam, il a refusé de dire la ilaha illallah et il est mort polythéiste. C'est hyper triste, franchement c'est hyper triste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été très 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 peiné par ça. Et Allah, dans cette ayah, même si c'est dur à entendre, eh bien en vérité, il le console en lui disant « Tu ne peux pas guider les gens que tu aimes. » Et là, qui Rasulullah aimait plus à ce moment-là que lui, son épouse Khadija? Vraiment, c'était ses piliers, en fait. C'était vraiment ses piliers. Et d'ailleurs, son oncle Abu Talib est décédé la même année que son épouse Khadija radiallahu anha. Et c'est cette année-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait appelé l'année de la tristesse, Aam al-Huzn. Et c'est là, en fait, cette année-là, d'ailleurs, que Surat Yusuf a été révélée en réconfort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu vois, il y a quand même une connexion avec Surat Yusuf et avec Surat al-Qasas, ici, avec cette ayah où, après la mort de son oncle, Allah réconforte son prophète en lui disant, en fait, tu peux pas guider ceux que tu aimes. Et tu vas voir que c'est très profond quand il dit ça. Dans Surat al-Tawba, Allah subhanahu wa ta'ala lui interdit même, en fait, de demander pardon pour son oncle après sa mort. De manière générale, il interdit aux musulmans de demander pardon pour des personnes qui ont mécru après leur mort lorsque leur mécréance a été avérée et donc ils sont morts dans cet état. Donc il n'y a plus possibilité pour eux de réparation et donc il interdit aux croyants, en fait, d'invoquer pour ces gens-là. Et dans la logique, si tu regardes bien, parce que ça peut paraître rude, ça peut... C'est sec, en fait, c'est sévère quand même. Cette chose de dire « c'est bon, c'est fini, la personne, son sort est arrêté ». C'est vrai que c'est dur à entendre quand c'est un proche. Mais si on regarde dans la logique des choses, parce qu'Allah, il parle bilhaq, il est juste, il s'est interdit à lui-même l'injustice. Alors comment est-ce qu'il pourrait accepter, en fait, que, bah regarde le contexte, ces gens qui ont associé d'autres à Allah, sciemment. Alors comment espérer d'Allah qu'il pardonne à des personnes qui, de leur vivant, comptaient sur autre que lui pour leurs affaires? C'est compliqué. Et ici, tu comprends la valeur du hadith « Ad-du'a'u huwa al-ibad ». Donc la du'a, le fait d'invoquer Allah, d'appeler Allah, de se référer à Allah, c'est la vraie adoration. Parce que en demandant à Allah, subhanahu wa ta'ala, tu admets qu'en dehors d'Allah, personne ne peut rien faire par rapport à ce que tu traverses. Il n'y a que Allah qui peut. Si on enlève Allah du tableau, de toute façon, il n'y a personne pour commencer. Personne n'est sur terre. Mais personne ne peut régler quelque chose qu'Allah n'a pas décidé de régler. C'est impossible. Par contre, tant qu'une personne est vivante, eh bien on peut et on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour sa guider. Et là, guider ici, quand il dit « innaka la tahdi man ahbabta », donc « tahdi », on a parlé de l'huda ici. Là, le verbe, quand il dit « tahdi », il y a même trois formes de guider. Il y a la guider qu'on appelle « al-irshad », c'est le fait d'informer à propos de la bonne voie. Ça, les prophètes le faisaient. Les êtres humains peuvent le faire aussi. C'est une sorte de da'wa, on peut dire. Donc ça, c'est à la portée de tous. Il y a la guider qu'on appelle « at-tawfiq », « bit-tawfiq », « tawfiqi », donc c'est le fait de permettre à une personne d'avoir la foi, créer la foi chez quelqu'un en gros, permettre à cette personne d'être bien guidée. Et là, je ne te fais pas de dessin, seul Allah a ce pouvoir. On ne peut pas créer la foi chez les gens. Et on a la forme tathbit, donc c'est le fait de rester ferme dans sa foi une fois qu'on l'a acquis. Et là encore une fois, tu te doutes bien, il n'y a qu'Allah qui a ce pouvoir. Donc si c'est le cas avec Rasulallah, si Allah dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam que tu ne peux pas guider ceux que tu aimes, quand bien même tu te débattrais pour ça, tu ne peux pas. Même si tu mets tous les efforts, tu ne peux pas. Alors que dire de nous? Lui ne peut pas contrôler les choix, les actions et les destins des gens. Alors que dire de nous? Nous, c'est pareil en fait. Regarde Ibrahim alayhi salam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah. Il n'a pas pu aider son père dans sa mécréance. Et Allah lui avait dit d'arrêter d'invoquer pour son père après sa mort. Parce que c'est fini en fait. Il a pris la décision de m'y croire. On ne peut plus rien. Donc il faut vraiment se dire qu'Allah ouvre les portes très larges et très longtemps aux gens pour croire. Mais arrive un moment donné où la personne, lorsqu'elle défend bec et ongle et lorsque vraiment elle ne jure que par cette mécréance-là, et quand elle montre à Allah tous les signes que « je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas », c'est là que tu vois la part de destin de la personne, comment elle est actrice finalement dans son destin. Si la personne ne veut pas, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Comme Allah dit, qu'il ne change pas l'état d'un peuple, tant que cette personne ne décide pas de changer elle-même. Mais quand la personne décide, eh bien ça y est. Mais ça, il n'applique pas sa sentence. Donc tant qu'il n'a pas envoyé déjà la vérité, il y a la vérité. C'est-à-dire que la personne prend ses décisions en connaissance de cause. Là, cette personne a déclaré, en fait, a tourné le dos à Allah, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pareil pour Nuh, alayhi salam. Il n'a rien pu faire ni pour sa femme, ni pour son fils. Pareil pour Lut, il n'a rien pu faire pour sa femme. Donc, alayhi salam, eux tous. Asiya, avec Firaoun, elle n'a rien pu faire également pour son épouse. Et l'inverse, c'est lui qui a fait quelque chose contre elle. Et si tu regardes bien, Allah ne dit pas « tu ne peux pas guider les gens. » Il a dit « tu ne peux pas guider ceux que tu aimes. » Le mot est très important pour montrer encore plus que seul Allah détient ça. Ton amour pour quelqu'un ne peut pas le sauver. C'est dur à accepter. C'est très dur à accepter. Tu peux avoir de la rahma, tu peux avoir de l'amour, tu peux tout avoir pour quelqu'un, mais ça ne suffira pas pour que cette personne croie en Allah. Ce n'est pas de ton ressort. On doit accepter nos limites, en fait. Cette ayah, elle appelle à beaucoup d'humilité. Elle aide aussi. Je trouve que cette ayah-là, elle n'est pas là que pour réconforter Rasulullah dedans. Elle nous aide aussi beaucoup, nous. Parce que beaucoup d'entre nous sont concernés. Beaucoup d'entre nous, en fait, avons en tête quelqu'un en particulier ou plusieurs personnes dont on rêverait que cette personne soit pratique l'islam, soit entre dans l'islam, et ça nous ronge de l'intérieur, en fait, de les voir se perdre comme ça. On leur veut du bien, mais on n'arrive pas, en fait. Et on ne peut pas forcer les gens. Et même en employant la méthode douce, tout, ça ne semble pas fonctionner. Là, dans ces moments-là, c'est très important, en fait, de penser à cette ayah. On doit accepter nos limites. En fait, on ne peut qu'influencer les gens, mais on ne peut pas les rendre croyants. Et c'est un grand rappel pour nous si on est parents, par rapport à nos enfants, par rapport aussi à nos frères et sœurs, par rapport à nos amis, à nos parents, les personnes qui se sont reconverties à l'islam. Je pense que ça leur parle énormément, ça. On ne peut qu'influencer, se comporter avec eux avec la plus grande rahma, faire preuve de sabr, faire preuve de bienveillance, mais on ne peut pas les forcer à croire. Cette ayah, je trouve que c'est un beau rappel aussi de ne pas s'en vouloir si quelqu'un qu'on aime ne crois pas en Allah. Là aussi, c'est dur, parce qu'on a une part de culpabilité qu'on porte. Ici, dans cette ayah, Allah nous décharge de cette culpabilité. Il ne faut pas se blâmer. C'est dur, mais il ne faut pas se blâmer. Parce que sinon, porter cette culpabilité, se blâmer sans vouloir, sentir ça comme un échec de notre part, ce serait comme penser qu'à la base, on avait le pouvoir de guider cette personne et on a échoué, on a failli dedans. Sauf que dès le départ, on n'avait pas ce pouvoir. Alors si tu n'as pas le pouvoir de quelque chose et tu essayes d'aider quelqu'un et à la fin, ça ne marche pas, pourquoi est-ce que tu t'en voudrais alors que dès le départ, tu n'avais pas le pouvoir? Tu avais juste en fait quelques outils pour l'amener vers celui qui a le pouvoir. Mais si celui qui a le pouvoir décide de ne pas guider cette personne parce qu'il a reconnu en cette personne des signes d'une personne qui ne veut pas être guidée. Donc Allah ne force pas. Est-ce que tu vois quand Allah dit « La ikraha fid din », c'est pas seulement pour nous, genre on ne contraint pas les gens à la religion. Allah aussi ne contraint pas les gens. On a tendance à penser « Allah ne contraint pas les gens à faire ceci, à faire cela ». Mais c'est pareil, Allah ne contraint pas les gens à croire en lui. Il leur donne toutes les cartes en main pour venir vers lui s'ils le décident. Mais s'ils décident de ne pas venir vers lui malgré tout ce qu'ils ont entre les mains, c'est leur problème. C'est dur à dire comme ça, mais c'est eux que ça concerne. Il n'y a pas d'échec si des personnes que tu aimes ne sont pas guidées malgré tous tes efforts pour les amener à ça. Ne te blâme pas pour les choix que d'autres ont décidé d'avoir. On fait notre part. C'est là qu'on doit exceller, dans la transmission, dans l'influence, dans les conseils, dans la bienveillance, dans la rahma. Mais le reste, c'est toujours la même chose. On a obligation de moyens, non de résultats. On a entre nos mains quelque chose de très fort, de très puissant, et qu'on sous-estime, je trouve, qu'on sous-exploite, et c'est les doigts. Les doigts, les doigts, les doigts. Tout est basculable, en fait, avec les doigts. Tout peut être changé. La doua, vraiment, c'est cette lettre de dernier recours et même de premier recours, de tout recours que tu envoies à Allah subhanahu wa ta'ala et qui change, en fait, la direction de l'équipage, si on parle d'un bateau, par exemple. Ça change la direction à 360 degrés. C'est impressionnant ce que ça débloque lorsqu'on prend la peine de faire des doua. Donc, on ne peut pas forcer les gens. D'ailleurs, dans Surat An'am, à la ayah 111, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Donc Allah dit dans le sens, et si nous faisions descendre les anges vers eux, comme il l'avait proposé, en parlant des mécréants bien sûr, si les morts également leur parlaient, et si nous rassemblions toutes sortes de choses devant eux, ils ne croiraient pas que si Allah le veut. Là, cette ayah vient te montrer que en fait, tu pourras amener toutes les preuves à certaines catégories de personnes. Toutes les preuves possibles et imaginables. Donc Allah dit dans la ayah, même si on réveillait les morts, c'est-à-dire on fait venir des morts qui vont... Donc les morts, le plus qu'ils ont sur nous, c'est qu'eux, ils ont été dans la tombe, eux, ils ont compris qu'il y avait une vie après la mort, eux, ils ont compris qu'il y avait le jugement dernier qui arrive, ils ont eu plein... En fait, ils savent, ils connaissent la vérité. Un mort, même si dans sa vie, il a vécu comme un mécréant, si là, tu le ressuscitais, tu le réveillais, et que tu lui parlais, il parlerait comme un limite un musulman, dans le sens où il parlerait... Les choses qu'il te dirait, c'est « perds pas ton temps, fais ça, etc. Si je pouvais, je changerais ça. » Il parlerait comme ça. Donc c'est pour ça qu'Allah dit « si on appelait les morts, on les amenait pour qu'ils donnent des preuves eux aussi, donc les vivants, ça fonctionne pas. Si on appelle les morts, ça fonctionnera pas non plus. Si on faisait descendre des anges, ça fonctionnerait pas. » Donc en fait, qu'est-ce qui est plus dur de tête? Qu'est-ce qui est plus compliqué qu'une personne qui ne veut pas? Quand quelqu'un ne veut pas, et qu'on force, déjà c'est pire. Des fois on peut faire l'effet inverse, on l'éloigne, mais on n'obtient pas beaucoup de choses. C'est dur, mais il faut accepter. Et cette ayah, je trouve que c'est vraiment, c'est un coaching à elle toute seule, dans le sens positif du terme, bien sûr. C'est vraiment un conseil rapproché. C'est vraiment, je le vois un peu comme quand il parle à la mère de Moussa, alayhi salam, et qu'il essaye de la contenir, parce qu'il faut se dire, il faut penser à Rasulullah au moment où il entend cette ayah. Et ce qu'il vient de traverser, ce qu'il vient de vivre avec la perte de son oncle, c'est extrêmement dur pour lui. Au-delà d'avoir perdu un de ses plus grands soutiens, donc ça va être difficile pour lui à compter de maintenant, Il a perdu son oncle, il a perdu son ami, son confident, son éducateur. C'est le souvenir aussi du père qu'il n'a pas eu, d'accord ? C'est le frère de son père. C'est dur, c'est extrêmement dur. Et naturellement, il a voulu invoquer pour lui après, jusqu'au bout, jusqu'à son lit de mort, jusqu'à la mort, il a tenté. Et c'est très dur. Et donc, il a pu se sentir en échec. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ayats dans le Coran où Allah dit peut-être que la'allaka bakhi'un nafsaka, peut-être que dans ton âme, tu es triste, peut-être que tu t'en veux, peut-être que plusieurs fois, Allah dans le Coran va appeler Rasulullah dans sa tristesse par rapport aux gens qui ne croient pas. Pas parce qu'il le traite de menteur ou quoi, il arrive à passer au-dessus de ça. Mais parce qu'en fait, il a tellement de rahma que ça lui est insupportable de voir des gens qui ne croient pas, en sachant ce qui va leur arriver. Rasulullah, dans sa mission et dans sa bonne foi, dans sa bonne volonté, lui, son rêve, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui va marcher derrière lui, yawm al-qiyama. C'est ça son plan. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous a demandé avant de partir. Et c'est comme s'il nous avait donné cette mission, en gros, ne me décevez pas. Je veux être le prophète qui aura la plus grande communauté derrière lui. Et il faut quand même qu'on honore le challenge, n'est-ce pas ? Donc, le problème n'est pas dans la vérité, le problème n'est pas dans les miracles, le problème n'est pas dans le Coran, le problème, il est en ceux qui ne veulent pas. Et la Ayah 57, où la caméra repart vers les mécréants, d'accord ? Là, on parlait plutôt de l'oncle de Rasulullah et de tous ceux qui vivent la même situation. Et là, on repart vers vraiment les mécréants, pour le coup, qui sont vivants, bien vivants, entendre Rasulullah et qui ne veulent pas croire. Et il y a encore d'autres excuses qu'ils mettent sur la table, cette fois-ci. Et donc, ils disent... Donc Allah dit qu'ils vont dire en gros, mais si nous suivons avec toi Al-Huda, donc la bonne voie, eh bien on nous arrachera de notre terre. D'accord ? Là aussi pareil, cet argument il tient encore moins que l'argument de Moussa et de ses signes. Oui, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu avec la même chose avec laquelle Moussa est venu ? Parce qu'en fait, ils se contredisent déjà dans leurs paroles. Innattabi Al-Huda ma'aka. Donc si on suit Al-Huda avec toi. Juste avec cette phrase, on voit qu'ils admettent, en fait que Rasulallah est une source de guidée. Ils admettent que Rasulallah est là pour amener les gens vers Al-Huda. Déjà, juste avec cette phrase-là, ils acceptent. Parce que s'ils acceptaient pas, ils ne seraient même pas en train de... La personne qui est en train d'émettre l'option de « D'accord, mais si on croit en ce que tu dis, mais il va nous arriver ça, ça, ça. » La personne qui ne croit pas du tout, elle ne va même pas émettre cette option-là. Elle va juste dire « Je ne crois pas. » T'es pas venu avec ça, 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 ton truc il tient pas, ils vont même pas penser à une suite. Mais là, ils envisagent une suite. D'accord, mais si on suit Al-Huda avec toi, donc ici on sait, on t'avoue en gros, à demi-mot, que tu es bien le prophète, que ce que tu dis c'est vrai. D'accord, parce que Rasulullah a réfuté toutes leurs objections avant. Toutes leurs objections, pas que celle qui est dans Surat Qasas. Donc ils admettent, sans l'admettre vraiment, mais ils admettent. Dis-moi que tu crois sans me dire que tu crois, par cette phrase-là. Ok, mais en fait, on va nous arracher à notre terre. Pourquoi ils ont dit ça ? Ils ont montré ici leur peur. Donc la peur, hein, on avait dit que c'était vraiment une émotion très marquée dans cette sourate. En gros, on a peur d'être soudain attaqué, violenté par les tribus, par les gens, perdre notre réputation, qu'en fait, qu'on soit des proies faciles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont en train de comparer leur situation à celle de Rasulullah. Ceux qui suivent Rasulullah, eh bien, ils ne sont pas en majorité, ils sont en minorité. Il y a beaucoup de pauvres aussi qui le suivent, beaucoup d'esclaves affranchis, certains aussi haut placés. Et donc, il dit, regardez, en gros, votre vie est misérable. Vous êtes en marge de la société, tout le monde vous chasse, entre guillemets, vous êtes torturés, on n'a pas envie de finir comme vous. Si on croit en Allah, on va finir comme vous. Donc, en fait, on sait que tu es le messager, mais on a peur, en fait. Parce que tes ennemis vont devenir aussi nos ennemis. Tes ennemis qui se tournaient contre toi vont aussi se tourner contre nous. En gros, on va galérer comme toi et on n'a pas envie, d'accord ? Et aussi, notre économie va s'écrouler parce que eux, c'était des grands marchands d'idoles. C'était aussi un carrefour où les gens venaient pour faire le, entre guillemets, hajj, mais des polythéistes, d'accord ? C'était des gens qui conservaient les idoles, la Kaaba était remplie, les gens venaient donner des offrandes. C'était vraiment une terre où les gens venaient et circulaient pour faire leur pèlerinage. Donc en fait, leur peur, on peut dire qu'elle a deux canaux. Il y a la peur par le mauvais soupçon sur Allah, donc sous Avani Billah. Il y a des gens en fait qui ont peur qu'Allah les abandonne dans la difficulté. Donc ça, c'est avoir un mauvais soupçon au sujet d'Allah, une mauvaise pensée au sujet d'Allah. Et il y a la peur parce qu'ils pensaient que le rizq était entre les mains, entre leurs mains, que leur subsistance était entre leurs mains. Parce que des gens qui réfléchissent comme ça, en gros, si on croit en toi, on n'aura plus rien, quoi. Non seulement on va nous attaquer, et après on n'aura plus rien. Et à cause de ces peurs et leurs croyances limitantes, eh bien, ils n'ont pas accepté de suivre Rasulallah. Ils admettent qu'il est bien véridique, mais ils ne veulent pas le suivre. Et attention, il ne faut pas croire que cette ayah parle que de ceux qui ne croient pas, que des mécréants. Là, il faut se dire, et nous dans tout ça? Dans chaque ayah, il faut voir notre part, comment est-ce que ça peut s'articuler dans notre vie. Eh bien, est-ce que nous, on n'a pas peur, des fois, que si notre islam est trop visible, eh bien, on va manquer des opportunités? Que si, par exemple, on porte notre hijab, on va nous fermer des portes? Que si on donne une certaine somme en sadaqa, on va manquer et être en difficulté? En gros, aussi, si je ne fais pas de crédit, bah, je ne pourrai jamais acheter de maison. Shaitan, il joue sur ça. Ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Donc, Shaitan vous menace avec la pauvreté. Il vous incite ainsi, ensuite, à la turpitude. C'est sa méthode, en fait. Il commence par vous faire peur sur le fait de manquer, etc. Et petit à petit, il nous emmène vers des péchés plus graves les uns que les autres. Et ça démarrait de la peur au début. Donc tu vois, la peur, lorsqu'elle donne de mauvais résultats. La peur en elle-même n'est pas mauvaise. C'est ce qu'on en fait qui est compliqué. Et en fait, toutes ces peurs s'alimentent du manque de tawakkul envers Allah. Et là, on a de quoi se servir dans le tawakkul. L'exemple de tawakkul de la mère de Moussa, alayhissalam, qui elle, je ne sais pas si quelqu'un peut comparer sa situation à la sienne. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a eu la même épreuve qu'elle, d'accord? Et pourtant, elle a fait preuve de tawakkul, là où tout le monde aurait abandonné. Il ne faut pas laisser nos peurs nous gouverner. Il ne faut pas laisser passer une opportunité par peur de ce que les gens vont penser. On veut tellement, parfois, souvent même, avoir la validation, donc externe, des gens, qu'on devient non sincère, on perd en sincérité avec notre propre identité. On s'oublie en fait, on ne se respecte pas. C'est limite ne pas admettre sa valeur que de faire prévaloir l'avis des autres, l'opinion des autres, la validation des autres, au point de nous faire manquer des opportunités, au point de passer à côté de ce qui nous aurait fait réussir, parce qu'on a peur. C'est hyper grave, qu'Allah nous aide par rapport à ça. J'espère que dorénavant, en fait, et dans l'avenir, on sera plus éveillé sur ça. C'est très important. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la fierté mal placée. C'est juste du respect pour la créature qu'Allah a fait. Et par ricochet, du respect envers Allah subhanahu wa ta'ala. On a plus peur des gens, parfois, que d'Allah. N'est-ce pas une forme de shirk mineur? Et ensuite, donc, Allah répond à ça. En gros, mais nous les avons pas établis dans une enceinte sacrée. Haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay. Donc, une enceinte sacrée, sûre, il y a la sécurité là-bas, vers laquelle des produits de toutes sortes sont apportés comme contribution de notre part, comme attribution de notre part. Et là, c'est simple en fait. Rappelle-toi la doua d'Ibrahim alayhi salam. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette cité-là, quand il a déposé son épouse Hajar et son fils Ismaïl, il a fait une série de doua que tu vas retrouver dans Surat Ibrahim, je te laisse aller voir, de très belles doua. Il a demandé à Allah de rendre cette terre bénie, sécurisée. Il a demandé aussi à ce que des gens, en fait, le cœur des gens se penche vers son épouse et son fils et qu'en fait, il y ait beaucoup de baraka là-bas. Et c'est ce qui s'est passé. C'est la doua d'Ibrahim alayhi salam qui fait de la Mecque aujourd'hui ce qu'elle est et ce qu'elle était aussi au temps de Rasulallah. Et comment, en fait, on peut douter même? Comment ils arrivent à douter et à se dire, oui, ils vont perdre en protection, on va les arracher de leur terre. Ils ont oublié l'année de l'éléphant, l'épisode des éléphants, là, quand le roi Abraha, abyssinien, était venu pour détruire la Kaaba. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je te laisse regarder sur la telfil, donc l'éléphant. Donc, les éléphants eux-mêmes ont refusé d'avancer. La Kaaba est protégée. Ça, c'était l'année de naissance de Rasulallah. C'était avant sa naissance, mais l'année de sa naissance. Il est né l'année de cet incident-là. Et donc, comment vous pouvez douter, en fait, du fait qu'Allah protège et vous protège? Mecca était connue pour sa sécurité. Quelqu'un qui entrait à Mecca ne craignait pas pour sa vie. On disait même que si quelqu'un se trouvait, le tueur de son père circuler à Mecca, eh bien il ne toucherait pas un cheveu de cette personne. Il attendrait de sortir de Mecca pour le tuer. Tellement, en fait, il y avait la sécurité là-bas. Les gens arrivaient là-bas, ils savaient qu'ils étaient en sécurité. Les Quraysh également, donc ils vivaient à Mecca, même quand ils sortaient de Mecca, ils avaient cette sécurité-là, parce qu'ils étaient respectés des gens, parce qu'ils étaient les gardiens de la Kaaba. Et Sourate Quraysh parle justement de ce côté où ils ont peur de la subsistance ici. Ils disent en gros, ils ont peur pour leur économie. Et bah là, tu dis juste Sourate Quraysh, où Allah dit « Ila fi Quraysh, ila fihim rihlata shita'i wa saif ». Donc Allah leur a permis ces voyages, donc des voyages commerciaux, en hiver comme en été. Donc ils allaient en Syrie, ils allaient en Perse, ils ramenaient toutes sortes de richesses, les gens venaient aussi. Ils pouvaient circuler en paix, les gens venaient chez eux en paix. Que veut le peuple en fait? Donc, d'ailleurs, c'est trop beau comment Allah parle du fait que les attributions, les bienfaits leur venaient. Il dit « yujba inay ». Yujba, c'est de la racine « jaba ». Ça veut dire « percevoir »,« collecter ». C'est typiquement, quand on parle de « jaba », c'est quand l'eau, c'est là où l'eau converge, en fait. Et si tu regardes bien, Mecca, c'était un désert, en fait. C'est une vallée en plein désert. Il n'y a rien qui pousse à Mecca, d'accord? Et malgré tout, tout leur venait sans vraiment leur effort. Donc Allah assurait leur subsistance, assurait leur sécurité. Leur nourriture leur venait de toutes parts. Ils n'avaient pas à se soucier de ça. Donc là, ce qu'on a envie de leur dire plutôt, mais c'est n'aie pas peur en fait. N'aie pas peur, utilise ce que tu as pour agir. D'accord? Si quelqu'un veut acheter quelque chose, au lieu de se dire oui, crédit, je pourrais pas, économise, trouve des moyens. Quand on décide de ne pas franchir les interdits d'Allah, Allah nous donne une solution. Mais si on se dit, oui, si je ne fais pas ça, je ne vais pas réussir, si je ne fais pas cette mauvaise chose que je ne dois pas faire, par exemple, ajiba, je ne vais pas réussir ça, c'est là que les problèmes commencent. C'est là qu'Allah te déclare la guerre. Donc en gros, Allah leur dit, vous avez la sécurité, vous avez la subsistance grâce à Allah, et malgré tout, malgré votre shirk là, et votre idolâtrie, votre polythéisme, je vous donne quand même tout ça, et vous osez ne pas croire, et en plus, vous arrivez à avoir peur qu'il vous arrive un mal si vous devenez en plus musulman. Donc vous n'avez pas peur qu'il vous arrive un malheur si vous continuez d'être mécréant, mais vous avez peur qu'il vous arrive un malheur et que vous ayez plus tout ça, et que vous soyez plus en sécurité et en paix si vous devenez musulman. Donc là, c'est le monde à l'envers. Donc au lieu de penser à ce qui pourrait t'arriver de mal, là, ce qu'il faut retenir de cette ayah, c'est qu'il faut penser à ce que tu peux faire maintenant avec ce que tu possèdes. Et on possède tous des bienfaits. Il n'y a personne qui dit « dans ma vie, il n'y a aucun bienfait ». Et ça, ça nous rappelle qu'être en sécurité, et avoir de quoi manger, de quoi se vêtir, un toit, etc., c'est une grande richesse. Là, on a envie de dire « et so what ?» Après ça, il y a quoi en fait? Il n'y a rien. Si on n'est pas reconnaissant envers ça, c'est compliqué. Et c'est étrange en fait comment ils pensent. Avoir ces peurs infondées, alors qu'Allah prenait soin d'eux pendant tout ce temps, et même au moment où ils sont en train de dire ça, ils continuent de prendre soin d'eux. Et si tu regardes bien aussi, même les animaux développent de l'affection pour les gens qui les nourrissent. Et là, pour ces gens-là, c'est compliqué. La ayah suivante, là il dit « Et combien nous avons fait périr donc de cités avant qui étaient ingrates ?» Donc là il parle des générations avant qui ont été détruites et qui pourtant étaient riches, étaient haut placées, avaient des constructions, des bâtiments, des richesses pas possibles, des commerces, etc. Donc pour en fait confronter leur argument et réfuter ça, ok, donc vous avez peur de manquer en fait si vous croyez. Eh bien, et si je vous parlais de peuples en fait qui étaient beaucoup plus riches que vous, beaucoup plus aisés que vous, et pourtant qui ont péri en fait. Donc regarde juste les civilisations récentes qui ont péri, il y en a pas, c'est même pas la peine d'aller très très loin, d'accord? D'ailleurs il dit, quand il parle de ces peuples-là, il dit « batirat ma'ishataha ». Donc « batar », ça veut dire le fait d'être « batara », ça veut dire le fait d'être extrêmement ingrat, extrêmement arrogant par rapport à ce qu'on possède. Donc ces gens-là étaient ingrats dans leur lifestyle, dans leur mode de vie, hyper focus sur le fait de profiter de la vie, d'avoir toujours plus, etc. Au point d'oublier en fait qu'à la base, c'était pas eux qui avaient ça, c'est Allah qui leur a donné. Et donc, si tu veux un exemple de peuple qui a péri et qui était richissime, Pharaon, c'est pas la peine d'aller loin. Il y a déjà le cas dans la sourate, on a déjà l'exemple, d'accord ? On n'a même pas besoin d'aller loin. Et si tu regardes aussi aujourd'hui, les vestiges des peuples de Thamoud, ils sont encore debout. Eux, c'est même pas des maisons simples et tout. Ils taillaient dans la pierre des constructions et de la précision mathématique. Aujourd'hui, les gens sont choqués de se dire qu'à leur époque, ils ont réussi à faire ça sans les outils qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc c'est ce qu'Allah dit, leurs demeures, elles sont toujours debout, elles sont visibles. Il y a encore les traces, on les voit. On passe à côté, les gens font du tourisme, ils vont là-bas. Les pyramides, tu les vois aussi, ça te rappelle quand même la puissance des Égyptiens à un moment donné. Mais comme Allah dit, leurs demeures ne sont que très peu habitées. Est-ce que tu vois des gens aller habiter dans les pyramides parce qu'ils se disent « oh, c'était des gens riches, etc. » Est-ce que tu vois des gens aller habiter dans les vestiges du peuple de Thamoud ? Il n'y a pas. Et Allah dit à la fin, c'est lui l'héritier. Quand tous ces peuples-là sont partis, à la fin, la terre revient. Allah, c'est à lui que ça appartient. Et il montre ici que vous, ça ne vous appartient pas, la terre. Donc en gros, là, il réfute leur argument en disant « bon, il faut arrêter les bêtises là, vos arguments ne tiennent pas. Si vous avez peur de manquer de la subsistance, etc., parce que vous devenez musulman, c'est pas logique du tout. Ça ne marche pas. Parce que les peuples, en fait, qui avaient beaucoup, ça les a pas empêchés, en fait, de périr. Parce qu'ils ne croyaient pas, pas parce qu'ils croyaient. » Et ensuite, dans la Ayah 59, donc Allah donc continue en disant qu'il ne fait pas périr des cités avant d'avoir envoyé dans leur métropole, leur capitale, parce qu'il envoie toujours dans la capitale, un messager pour leur réciter, leur raconter, leur expliciter les ayats, les versets. Il dit qu'il ne laisse pas périr des cités si leurs habitants, en fait, tant que leurs habitants sont pas justes, en fait. C'est que les injustes, en fait, qu'il fait périr. Allah est juste. Donc, tant que la vérité n'est pas clarifiée, donc tant qu'il n'a pas envoyé ses signes, ses enseignements, etc., Allah ne fait pas périr de cités. Et les messagers, comme je disais, ils étaient toujours envoyés au centre, toujours dans la capitale. D'accord ? Là, c'est comme si tu imaginais quelqu'un, il arrive à Paris, si c'est la France. Donc, c'est toujours la capitale. Donc là, c'était Mecca. Pourquoi toujours la capitale, le centre ? Parce que tout ce qui est au centre, en fait, se diffuse au reste du pays. Quand il y a des nouvelles qui arrivent au centre, on est sûr que ça va arriver au reste du pays. Regarde là, par exemple, dans le cas de l'histoire de Moussa alayhi salam, la capitale, bah, c'était là où Pharaon il est. Donc tout ce qui arrive dans les mains de Pharaon va forcément être su de tout le monde, d'accord ? Pareil pour Mecca. Mecca était le carrefour, donc tout ce qui arrive à Mecca se diffuse. Et là, on apprend dans cette ayah que le malheur arrive lorsque l'injustice s'installe. Et ça me fait penser à une phrase des frères de Youssouf alayhi salam, donc qui ont commis une grande injustice. Et en fait, ils ont vécu une vie assez triste, assez dur, assez misérable, le temps en tout cas où ils retrouvent Youssouf alayhi salam. Je ne parle même pas de la famine qui a touché tous les pays avoisinants, avec l'Égypte aussi. Hein. Mais regarde juste dans leur phrase, il y a un moment donné, quand ils ont laissé Benyamin et qu'ils reviennent encore pour chercher de quoi manger auprès de Youssouf alayhi salam, ils disent une phrase, la phrase de détresse en fait. Ils disent « Massana wa ahlana dur ». Donc le dur, donc le malheur, l'effroi, la difficulté nous a touchés, nous et nos familles. Donc là, on voit que c'est des gens qui n'ont pas de baraka dans leur vie, qui sont en train de parler. Peut-être que, justement, c'est le poids de leur injustice qu'ils ont commis des années avant qui est en train de les rattraper. Et c'est en réponse à ça que Youssouf alayhi salam a fait preuve de rahma et leur a dit qui il était. Donc, le passage d'aujourd'hui, vraiment, c'était très fort, je trouve, en sens. Là, on va dans des concepts de plus en plus profonds, certains pas faciles à apprendre, mais quand tu regardes bien, Allah subhanahu wa ta'ala ramène les choses dans l'ordre. Il a d'abord commencé par nourrir Rasulallah par le récit de Moussa alayhi salam et toute sa famille, toutes ses femmes de sa famille, et Pharaon et les autres, etc., et son frère. Et là, en fait, il a l'attention de Rasulallah pour pouvoir lui expliquer les choses, lui poser le contexte. Il lui a posé le contexte d'un prophète, il lui réexplique son contexte à lui. C'est vraiment un miroir, en fait. Pharaon, les mécréants, etc. Donc c'est vraiment un beau jeu de miroir qui se passe ici. Donc on arrive à la fin de cet épisode. Je profite de cet épisode-là pour t'annoncer quelque chose. J'en avais parlé brièvement sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, je pense, au début de Ramadan. Je le dis là parce que c'est une surprise que je prépare pour les personnes, c'est exclusivement pour les personnes qui écoutent le podcast, je vais t'expliquer. Et donc je ne voulais pas que ça apparaisse comme une nouvelle à la fin de Ramadan et que tu sois pris de court, donc je te prépare mentalement dès maintenant. Alors, J'aime bien, pendant Ramadan, offrir des cadeaux, offrir quelque chose de qualité. Je l'avais fait pendant Ramadan et là, je souhaite le réitérer. Il y aura une Umrah à gagner pour une personne. Inch'Allah. Avec l'agence Made in Voyage, donc de mon cher petit frère, Oustad Cheikh Amin, qui est directeur d'agence de Made in Voyage, enseignant de Coran comme moi. D'ailleurs, les hommes, s'il y a des personnes qui veulent un enseignant compétent et qui peut les suivre, etc., n'hésitez pas. Vous allez à Made in Academy et vous trouverez des enseignements de qualité. Et voilà, mon frère, on dit souvent que c'est mon double. c'est ma version homme, quoi. En plus timide, en plus discret, on va dire. Donc, la Umrah se fera avec son agence, qui est une excellente agence. Je ne dis pas ça parce que c'est mon frère, mais parce que vraiment, je signe que c'est une agence de qualité. Tous ceux qui ont voyagé avec lui sont vraiment satisfaits. Il a l'amour de Médine, une ville dans laquelle il a vécu pendant de longues années, où il a fait ses études à l'université de jurisprudence. Et donc, il est fiable. Et il fait ça avec passion. Il est vraiment passionné par ça. Et ça fait bon vivre, en fait, d'être avec lui en voyage. Donc, pour pouvoir tirer au sort quelqu'un, je me suis dit, c'est une Umrah quand même. Faut pas que ce soit facile. Faut vous faire travailler. Donc, en fait, l'idée que j'ai eue, c'est de vous donner un quiz, en fait, à la fin de la série Ramadan. Ce sera, donc, je mettrai le lien du quiz dans les notes du dernier épisode. Donc, l'épisode, je pense que ce sera l'épisode 22. Ce sera un épisode récap, hein. Donc, je vais le sortir après l'Aïd, comme ça, vous n'aurez pas à vous concentrer sur autre chose, parce que l'Aïd, il faut profiter. Donc, ce sera le vendredi 12 avril, normalement, Inch'Allah. Et donc, ce sera un quiz. Je te rassure tout de suite, ce ne sera pas un quiz discriminant, avec une note, etc. C'est juste vraiment pour participer. Un quiz qui va poser des questions sur Al-Qasa, sur tout ce qu'on a vu là. Donc, il n'y a pas de réponse, en tout cas, auxquelles tu ne peux pas répondre si tu as écouté le podcast. Donc, c'est bien, ça stimule, etc. Et donc, parmi les gens qui ont rempli le quiz, donc je vais tirer au sort, donc avec les adresses mail. Donc c'est très important, toute personne qui n'a pas fait le quiz, elle ne pourra pas tirer au sort, c'est logique. Il faut une adresse mail aussi qui fonctionne. Et donc je tirerai au sort là-dedans. Je tirerai au sort et j'annoncerai le vendredi d'après, donc le vendredi 19 avril. Comme ça laisse une semaine pour bien le faire, sans stress, etc. et tout. Et comme ça, j'annoncerai la personne qui aura gagné dans l'épisode du vendredi d'après, Inch'Allah, la semaine d'après l'Aïd. Et voilà, ce sera sympa. Ça, c'est mon cadeau de Aïd. Et un cadeau de Aïd aussi, mais également un moyen pour moi d'acquérir encore plus les faveurs d'Allah et de le récompenser pour ce qui m'a permis de transmettre, pour ce temps qu'il me donne de faire le podcast. C'est vraiment pas facile de faire des épisodes quotidiens, etc. Surtout que pendant Ramadan, j'en enregistre encore, j'ai pas tout enregistré avant Ramadan. Il y a une grande baraka pendant Ramadan avec l'enregistrement. Mais ça demande du temps, de préparation, on enregistre après que les petits soient au lit, il faut du calme, il faut être éveillé, et puis après il y a les tarawih, il y a ça, etc. Alhamdulillah, Allah met la baraka dans le temps, regarde, tu as toujours eu ton épisode tous les jours, alors qu'il y a des jours, franchement, c'était limite la veille pour le lendemain, mais alhamdulillah. Et on remercie Allah, et on remercie tous ceux, en tout cas, qui contribuent à nous aider à accomplir nos missions, quelle que soit notre mission de vie. En tout cas, moi, cette mission, je la prends à cœur. Ça me fait très plaisir de la partager avec toi. Et donc, je m'étais dit que c'est Ramadan. Qui dit Ramadan dit des grandes actions. Et cette Umrah-là, ce sera un bon moyen, Inch'Allah, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'il m'a donné et ce qu'il me donne à travers vous. Alhamdulillah, ya Rab. Eh bien, je te dis à l'épisode prochain, Inch'Allah, pour la suite. Assalamu alaikum.